Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Clémence Alezard, mais aussi Anne-Sophie Pierry, mais également Tiffaine de Roquigny et Samuel Bernard, réalisée par Alexandre Fougeron et mise en onde ce matin par Alexandre Dang. Pour clore donc notre série consacrée à l'exercice du pouvoir, nous nous intéressons ce matin à ce qu'on appelle communément la crise des démocraties malades dont il faudrait à tout prix changer le logiciel. C'est d'ailleurs un des credos d'Emmanuel Macron, candidat hors système au sens du système partisan, qui prône un renouvellement de la classe politique, mais dont la victoire dimanche dernier reste à relativiser, tant le nombre d'abstentionnistes et de votes nuls et blancs était historiquement important. C'est pourquoi cette élection nous interroge. Emmanuel Macron, symptôme ou remède à la crise de la représentation, renouveau ou statut et plus largement, comment rénover la démocratie. C'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
N'ayons pas peur du changement. Décidons-le.
En Marche, c'est la garantie du renouvellement politique.
J'attends vraiment une façon de faire de la politique qui soit différente, comme on a fait En Marche, dans l'intelligence et la compétence.
Je ne compte pas faire une carrière en politique, et ça, je pense que c'est assez important. Et toutes les personnes qui sont engagées aujourd'hui en Marche, on partage cette idée selon laquelle il faut un temps d'investissement, d'engagement, mais il faut savoir aussi retourner, laisser la place à d'autres. Le renouvellement, il doit être continuel.
On a besoin d'un renouvellement. De toute façon, le renouvellement va se faire puisque est appliqué prochaines élections, eh bien, cette limitation du cumul. Donc en effet, la moitié des investitures qui seront données par En Marche, eh bien, seront données à des femmes et des hommes qui viennent de la société civile et qui ont des responsabilités dans les entreprises, les associations et une vraie légitimité pour le faire.
Vous avez bien sûr reconnu la voix du nouveau président Emmanuel Macron, mais peut-être pas celle de Laetitia Avia, candidate aux législatives dans le 12e arrondissement de Paris, avocate de formation, la plus jeune candidate investie au sein de La République En Marche. À 31 ans, elle met donc entre parenthèses son activité professionnelle pour se consacrer tout entière à sa campagne. C'était une des promesses d'Emmanuel Macron, alors candidat à l'élection présidentielle. La moitié des candidats investis aux élections législatives seraient issus de la société civile. Au-delà du renouvellement affiché, quelle promesse de refonte démocratique au niveau institutionnel, par exemple, sa large victoire, plus de 65% des suffrages exprimés, s'est faite sur fond de barrages au Front National, de forts taux d'abstention, de niveau historique de vote blanc et nul. N'est-ce pas déjà une remise en cause de facto de notre système représentatif? Dans quelle mesure cette élection française révèle les failles, voire les faillites des démocraties représentatives? Le constat d'une crise de nos démocraties n'est pas nouveau. Depuis les indignés espagnols au mouvement Occupy Wall Street aux États-Unis ou le parti pirate en Islande, aux quatre coins du globe, on en appelle à plus de démocratie directe, à plus de transparence, à plus de délibération aussi, d'inclusion des citoyens. Pour quels résultats qu'ont amené ces réveils citoyens, ou regarder pour voir la démocratie se réinventer? Voilà les questions qui seront les nôtres ce matin. Pour les évoquer, deux invités avec nous en plateau ce matin. D'abord Yves Saint-Omer, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes politologue, professeur des universités dans le département de sciences politiques de l'Université Paris 8. À vos côtés, Elisa Lewis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous, entrepreneur, une spécialiste des questions d'innovation sociale et démocratique. Vous avez coécrit avec Romain Slitin Le coup d'État citoyen, ces initiatives qui réinventent la démocratie, qui était paru aux éditions La Découverte. On aura l'occasion évidemment s'intéresser à quelques-unes d'entre elles. Alors cette actualité française, l'élection d'Emmanuel Macron, on l'a vu, est en train d'entraîner dans son sillage tout un bouleversement du paysage politique, en tout cas tel qu'on le connaissait jusqu'ici. La commission sur les investitures d'En Marche la République doit officialiser dans les quelques heures les noms des candidats qui vont défendre les couleurs de ce rassemblement présidentiel, mais on sait d'ores et déjà, en tout cas c'est ce que disait le président de la commission, Jean-Paul Delevoye, que le renouvellement devrait être atteint. C'est ce qu'il disait en tout cas hier chez nos confrères d'Europe 1. Il expliquait que 60% des candidats seront des personnalités issues de la société civile, donc au-dessus de l'engagement qu'ils avaient pris des 50%. Il a clairement laissé entendre d'ailleurs que l'ancien Premier ministre, par exemple Manuel Valls, ne remplissait pas les critères pour être investi, idem pour Bruno Le Maire. Donc on se dirigerait vers une proposition de renouvellement du Parlement absolument inédite, si bien sûr ensuite ils arrivent à gagner leur circonscription. Mais que vous inspire cette offre de renouvellement de la classe politique, est-ce qu'elle vous semble de nature à revoir notre logiciel démocratique, puisque c'est la question qu'on se pose ce matin? On commence avec vous, Yves Saint-Amer.
Oui, alors je pense qu'il faut avoir une vision un peu nuancée de la question. D'un côté, il est évident que par rapport à la situation que nous connaissions en France, où on a une classe politique dont les voies de promotion, de formation sont particulièrement étroites comparées à celles de nos voisins, le fait que des candidats issus de la société civile, différents, puissent figurer aux élections avec des chances raisonnable, même si ce n'est pas assuré de gagner, est un facteur positif. Et en même temps, si les institutions restent structurellement les mêmes, si la dynamique se fait simplement dans la foulée d'un candidat à la présidence de la République, d'un système qu'on a qualifié à juste titre de monarchie républicaine, alors les personnes nouvelles seront très vite happées par ce système et on retrouvera très rapidement les vieilles logiques. Donc c'est à la fois un signe positif, mais...
Un temps pas suffisant.
Mais pas suffisant.
Nécessaire, mais pas évidemment. Suffisant. Elisa Lewis, sur cette question peut-être que soulevait Yves Saint-Omer sur les institutions, est-ce que vous pensez que cette élection, que cette proposition de renouvellement va enclencher des évolutions dans le domaine institutionnel?
Alors... Déjà, je ne sais pas si on peut dire d'Emmanuel Macron qu'il est le candidat et le président anti-système. Néanmoins, il est au moins le président anti-système partisan et je pense qu'il correspond...
C'est ce que je précisais dans mon introduction, dans mon chapeau.
Tout à fait, hein, ce que vous disiez. Ouais. Et clairement, il correspond aujourd'hui à une aspiration des citoyens, de la population, à ce qu'il appelle assez largement un renouvellement. Après, évidemment, il faut s'interroger sur ce que promet véritablement ce renouvellement. Mais en tout cas, il correspond aujourd'hui à une volonté de dépassement des clivages. Partisans, des clivages des partis politiques, aussi de cette vie politique bien souvent étouffée par des partis qui sont devenus extrêmement hermétiques, professionnalisés, qui semblent parfois coupés de la vie sociale et du dynamisme de la société civile. Et puis il propose aussi ce renouvellement des visages qui correspond là aussi à juste titre à une volonté de dépassement de la représentativité.
Mais est-ce que vous pensez que toutes ces évolutions vont entraîner nécessairement notre pays dans une nouvelle forme de régime politique?
Alors justement, je ne pense pas. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, avec Emmanuel Macron, on s'arrête un petit peu à un renouvellement de façade, avec des questions qui sont posées à juste titre sur le renouvellement de la classe politique. Mais néanmoins, contrairement à d'autres candidats qui avaient formulé des propositions ambitieuses, audacieuses sur le renouvellement de la vie institutionnelle, sur des mécanismes de participation des citoyens à la vie politique, que ce soit autour de mécanismes d'initiative citoyenne, de participation à l'élaboration des lois, Emmanuel Macron aujourd'hui ne va pas très loin sur ces questions-là. Après, peut-être que de fait, il se retrouvera sans véritablement le vouloir, le président d'une forme de 6e République parlementaire, puisque on verra ce que donnent les élections législatives, mais il se retrouvera peut-être avec un Parlement extrêmement morcelé, avec différentes formations politiques représentées. Il devra peut-être composer aussi avec cette diversité à la fois politique, mais aussi de la société civile au Parlement. Donc peut-être que, sans le vouloir, il sera quelque part le président de cette 6e République parlementaire qui ne porterait pas son nom. Néanmoins, aujourd'hui, il n'est pas le candidat le président d'un coup d'État citoyen.
Yves Saint-Omer, sur ce clivage gauche-droite qu'évoquait Elisa Lewis, ça fait des années qu'on nous explique que ce clivage gauche-droite finalement a disparu, qu'il n'existe plus, en tout cas qu'il n'est plus opérant. On nous propose de nouvelles oppositions entre mondialistes et souverainistes, c'est une des choses qu'on entend très souvent. Là aussi, est-ce que vous croyez vraiment que ce clivage a disparu ou est-ce que d'une certaine manière, cette disparition n'est que temporaire et en réalité, elle va réapparaître? Temporaire parce que précisément nous serions dans une crise, Saint-Omer.
Une des raisons qui a amené au diagnostic de disparition du clivage droite-gauche, c'est que les socialistes français, comme la social-démocratie dans toute l'Europe, comme les démocrates américains, n'était plus véritablement le défenseur des classes populaires, avait misé sur les classes moyennes supérieures, bien insérées dans la mondialisation et dans les succès de l'économie, et que du coup, ce qui faisait la gauche tendait à ne plus être représentée. Puis la deuxième raison, c'était une approche souvent très idéologique, au mauvais sens du terme, c'est-à-dire un peu archaïque, un peu détachée des réalités d'une bonne partie de la classe politique et des partis politiques. C'est pas pour autant que les clivages sociaux qui fondaient l'affrontement gauche-droite dans le passé ont disparu. Et on a, d'une certaine manière, une lutte des classes qui continue. Et simplement, elle est menée et gagnée par les couches les plus riches de la population aujourd'hui. Donc, cet affaissement-là pourrait revenir. Il est clair que dans une situation comme ça, du coup, c'est d'autres clivages qui sont mobilisés par les partis politiques. Je ne pense pas que la société française, par exemple, aujourd'hui, soit plus raciste qu'elle n'était autrefois, ou qu'elle est plus raciste dans la vie quotidienne que ne le sont les populations des pays voisins. Mais la classe politique, ou une partie de la classe politique, a instrumentalisé cette question, notamment le Front National, comme clivage de remplacement. Il me semblerait très négatif que le clivage soit aujourd'hui entre mondialistes, entre guillemets, et souverainistes, car nous avons besoin à la fois de donner que les personnes qui sont ancrées localement et qui ne sont pas mobiles puissent se reconnaître là où ils sont, dans les communautés politiques, économiques, sociales qu'ils forment, mais en même temps de pouvoir s'insérer de façon dynamique dans un monde en plein changement.
Elisa Lewis, à propos justement de cet éclatement droite-gauche, certains penseurs avaient représenté cette chose comme une bonne chose, comme le signe d'une certaine modernité, de l'avènement même d'un moment post-politique. C'était par exemple la position du sociologue allemand Ulrich Beck. Alors que d'autres pensent qu'il faut justement réintroduire du clivage politique, sortir de l'illusion du consensus, pour reprendre le titre de l'ouvrage de la philosophe belge Chantal Mouffe. Est-ce que pour vous, la disparition du clivage gauche-droite est un progrès?
Alors, je pense qu'il... Déjà, moi, je ne suis pas complètement convaincue qu'il y ait une disparition du clivage gauche-droite. Je pense qu'il y a une disparition aussi, aujourd'hui, d'un système bipartisan avec deux partis de gouvernement en France et d'ailleurs ailleurs en Europe, hein, puisque en Espagne aussi, on a annoncé la fin du clivage gauche-droite. Néanmoins, on voit bien que c'est pas du tout la fin des antagonismes, c'est pas la fin d'intérêts divergents dans la société, et de la nécessité de les organiser au sein du système institutionnel et au sein de l'émergence d'un certain nombre de mouvements. Par exemple, en Espagne, l'émergence du mouvement Podemos montre bien que le clivage gauche-droite, ou en tout cas les clivages sociétaux, sont loin d'avoir disparu. Après, il est vrai, je pense, que le clivage droite-gauche tel qu'il s'était établi dans le système politique tuait quelque part le débat d'idées, la capacité à être créatif et à penser le monde tel qu'il est. D'une part parce qu'il y avait une confusion sur les mots, et ça a été la grande défaite notamment de la gauche, je pense, d'avoir repris à son compte un certain nombre d'éléments sémantiques de la droite et du libéralisme, par exemple autour de la notion d'austérité, d'efficacité, efficacité budgétaire, comme si c'était des termes apolitiques qui ne se discutaient plus et qui ont été intégrés par la droite, mais aussi par la gauche. Mais ce clivage gauche-droite tel qu'il existait, il a aussi, c'est vrai, cette tendance à figer les positions et à empêcher véritablement le débat.
Donc cette implosion qu'on est en train de voir des deux partis de gouvernement traditionnels, le PS et les Républicains, c'est une bonne nouvelle, de votre point de vue?
Alors je pense que un, c'est une implosion du clivage tel qu'il existait, mais une reconfiguration des intérêts et des clivages politiques. Et c'est une bonne nouvelle parce qu'en effet, je pense et j'espère que ça va libérer la créativité et le débat politique autour de nouvelles idées, de nouveaux clivages. Et d'ailleurs, on le voit déjà à gauche en France. Le Parti Socialiste a implosé, mais les forces de gauche se réorganisent et sont en train aussi de se réinventer, y compris en France.
Yves Saint-Amer, sur cette recomposition du paysage politique, sur cet effondrement des partis traditionnels et sur l'émergence de nouveaux mouvements qui sont en train d'apparaître. On le voit d'ailleurs très très vite, hein. Dès dimanche soir, on a vu déjà cette dynamique s'engager. On a Benoît Hamon qui a annoncé cette semaine la création d'un nouveau mouvement citoyen et transpartisan, c'est ce qu'il a dit. On a eu hier une autre annonce, Anne Hidalgo, Yann Arthus-Bertrand, mais aussi Christiane Taubira, qui nous annonce la création d'un mouvement citoyen pro-européen, un mouvement d'innovation pour une démocratie européenne, écologique et sociale. Quel crédit vous Vous apporter à ces mouvements dits citoyens, en tout cas ils sont affichés comme tels, qui par ailleurs sont portés par des politiques relativement expérimentées quand même, Yves Saint-Omer.
Oui, je crois qu'il faut tout de même différencier de façon très nette. D'un côté, des mouvements citoyens au sens strict du terme, c'est-à-dire, prenons Nuit debout l'an dernier, mais il y en a d'autres, en France comme ailleurs en Europe, qui contestent le système politique tel qu'il fonctionne aujourd'hui, qui contestent également la logique de production, le mode de production, de consommation dans lequel nous sommes depuis plusieurs décennies. Donc d'un côté, il y a ça, puis de l'autre côté, il y a des tentatives de recomposition du champ politique au-delà du camp, entre guillemets, du nouveau président de la République. Il est très tôt pour savoir ce que cela va donner. Nous sommes dans une situation très fluide. Nous ne savons pas comment vont se passer les législatives. Ce qui est sûr, c'est que l'effondrement, ou en tout cas l'affaiblissement très net des partis traditionnels, ouvre la porte à des recompositions qui pourraient être très positives.
Quittons un petit peu la France.
Adelante la gente humilde, adelante este pueblo, adelante España, que podemos ganarles. Y como decía Salvador Allende, la historia es nuestra y la hacen los pueblos.
Ouais, l'histoire nous appartient, Pablo Iglesias qu'on entendait, on se souvient que les manifestations des indignés à la Puerta del Sol avaient finalement donné naissance à ce parti Podemos en janvier 2014, Elisa Lewis. Alors là aussi c'est tout un paysage politique qui a été bouleversé, ce bipartisme qui était bien installé depuis la fin du franquisme disons, a volé en éclats. On est en présence en réalité aujourd'hui de quatre forces politiques avec donc, c'est ce qu'avaient montré d'ailleurs les législatives de décembre 2015 et de juin 2016. Avec donc Podemos, avec les deux partis traditionnels aussi qui sont restés en place, le PP et le PSOE, et puis sans oublier bien sûr ces libéraux de Ciudadanos. Quand on regarde un petit peu les choses, Elisa Lewis, on se rend compte qu'en réalité, après les législatives, il n'y a pas d'accord qui a pu être trouvé, que Podemos et le PSOE n'ont pas su s'entendre pour créer une coalition, et que finalement, c'est le Parti conservateur qui, puisque la nature déteste le vide, s'est emparé de ce vide et a repris les rênes du pouvoir. Donc si j'étais un peu cynique, je dirais que d'une certaine manière, tout cela pour ça. C'est-à-dire que qu'est-ce qui a changé dans la démocratie espagnole réellement ? On peut s'interroger sur ce que Podemos a réellement apporté à la démocratie espagnole, Elisa Lewis.
Alors, Podemos a déjà à minima bouleversé l'échiquier politique, et ce qui est intéressant par rapport à cette conversation qu'on avait sur la question du clivage, Podemos, pour occuper aujourd'hui cette place centrale, ou en tout cas au moment des élections, a fait évoluer le clivage, du clivage gauche-droite à un clivage que Chantal Mouffe théorise autour du populisme de gauche, en disant cette fois le clivage s'organise autour du peuple versus des élites. Donc pour moi, déjà, Podemos a bouleversé un certain nombre de choses et d'évidences dans la vie politique. Le bipartisme tel qu'il existait, la façon aussi de faire fonctionner un mouvement politique, parce que c'est vrai qu'on pense souvent Podemos comme ce nouveau parti anti-austérité qui porte une nouvelle ligne politique en Espagne et en Europe, mais c'est aussi une manière d'organiser le mouvement qui a été extrêmement innovante à travers une campagne de microcrédit, à travers l'association des citoyens à l'élaboration des programmes. Après, ce qu'on voit aujourd'hui, en effet, c'est que le parti se normalise autour d'un chef extrêmement charismatique, autour d'un mouvement extrêmement centralisé, avec des luttes d'ego qui n'épargnent pas le mouvement.
Et vous avez bien résumé les choses. C'est-à-dire qu'effectivement, au départ, ce que vous dites est juste. C'est-à-dire qu'il y a cette idée d'une certaine verticalité. Le mouvement y est extrêmement attentif. Et puis, au fur et à mesure, il va s'institutionnaliser. On va élire un leader, des personnalités vont se retrouver sur le banc du Parlement, on va se retrouver avec d'une certaine manière un parti organisé de façon pyramidale, avec des luttes internes, vous le disiez. On se souvient du congrès du début d'année en février où Pablo Iglesias et Íñigo Errejón se sont combattus justement pour prendre la tête de ce parti. Je voudrais votre avis, Saint-Omer, est-ce qu'on n'est pas là en présence finalement d'un parti comme les autres, devenu comme les autres.
C'est-à-dire qu'on a une certaine déformation de la vision de ce qu'on comprend par Podemos et de ce qui se passe en Espagne, vu de France. En fait, Podemos, c'est pas simplement un parti, c'est une constellation. C'est une constellation parce qu'il y a une situation quasi fédérale en Espagne et que les forces dans les communautés autonomes, en Galice, en Catalogne, au Pays Basque, sont très largement indépendantes de Podemos. Et ça joue de façon fondamentale. Deuxièmement, une bonne partie des mairies qui ont été gagnées par des coalitions dans lesquelles des militants de Podemos étaient actifs, et notamment Barcelone et Madrid, qui sont deux expériences extrêmement intéressantes, sont dirigées par des maires qui ne sont pas membres de Podemos.
Elles sont soutenues par Podemos.
Elles sont soutenues, mais elles ne sont pas de Podemos. Troisièmement, on a encore ce grand mouvement de protestation citoyenne qui s'était marqué par ce qu'on appelle en France les indignés, mais ensuite par ce qu'on a appelé les marées pour défendre les services publics, qui continuent d'être très actifs avec des fédérations plus ou moins formalisées d'associations, de mouvements sociaux, qui à l'échelle locale marquent beaucoup. Et puis ensuite, on a Podemos au sens strict du terme, où on a d'un côté une base qui peut intervenir plus facilement que dans d'autres partis, mais aussi des combats de factions et une centralisation du pouvoir qui n'ont guère à envier avec ce que font les autres partis. Mais donc il faut voir toute cette constellation-là, et c'est ça qui fait la force de Podemos.
Alors voilà, Elisa Lewis, et ça c'était une question extrêmement intéressante, parce que, je le disais tout à l'heure de façon un peu cynique et de façon un peu provocatrice, mais peut-être que sur le plan national, le bilan n'est pas forcément celui qu'on espérait, celui qu'on attendait. Par contre, il a raison, au niveau local, là, les choses ont changé. Il y a un certain nombre de mairies qui ont été obtenues par des gens qui ne sont pas directement membres de Podemos, mais qui ont été soutenus par Podemos. Et là, on pense notamment à Barcelone, avec Ada Colau. Et là, sur le plan local, on a réussi à changer des choses. Ce qui pose cette question de savoir, finalement, est-ce que nos démocraties... Quelle est la bonne échelle? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut réellement faire encore des choses au niveau national? Ou est-ce que, d'une certaine manière, tout cela doit se réinventer, ne peut se réinventer que par l'échelle locale?
Alors, je pense que ça peut se réinventer aux deux niveaux. Après, c'est vrai que souvent, quand on pense la démocratie et le renouvellement de la démocratie, en particulier en France, on a cette vision extrêmement centralisée et on pense la démocratie avant tout comme un régime d'institution. C'est vrai qu'il faut jamais oublier que la démocratie, c'est aussi une façon d'être ensemble, une façon de vivre au quotidien, de protéger les plus faibles, de permettre à toutes les voix de la société de s'exprimer, de créer des nouveaux espaces de délibération et de décision. Et puis, c'est aussi un principe, une éthique personnelle de vie. Et donc, évidemment, la démocratie peut prendre d'autant plus racine dans le terreau local. Et l'exemple des mairies espagnoles, où aujourd'hui, il y a à peu près 6 millions d'Espagnols qui vivent dans des villes dirigées par des mairies espagnoles, des mairies citoyennes, pardon, est extrêmement intéressante, sans oublier, évidemment, ce que mentionnait Yves Saint-Omer, à savoir que c'est pas simplement Podemos au niveau local, et c'est à chaque fois des coalitions qui associent aussi des acteurs de la société civile. Mais en effet, l'exemple de Barcelone ou de la mairie de Madrid, qui sont quand même les deux grandes villes espagnoles qui ont amené au pouvoir des mairies rebelles, indignées et citoyennes, extrêmement marquants, avec par exemple à Madrid une mairie qui est gérée de manière extrêmement ouverte, transparente, collaborative, avec un gros travail qui a été fait sur la mise à disposition, par exemple, de l'ensemble des données publiques qui font de la décision, avec un travail sur la transparence budgétaire, mais aussi des consultations extrêmement régulières sur les grands projets d'infrastructure de la ville, la possibilité pour les citoyens de proposer eux-mêmes des projets qu'ils souhaitent voir pour leur ville. Il y a eu récemment un référendum suite à une proposition citoyenne sur la création d'un billet de transport unique et sur le développement d'un Madrid 100% durable qui a été largement plébiscité dans le cadre d'un référendum local qui n'existe pas vraiment institutionnellement en Espagne, mais qui a été une création de la mairie de Madrid. Donc, évidemment, il y a au niveau local un terreau favorable, parce que c'est aussi là que les gens se connaissent, travaillent, peuvent coopérer ensemble, vivent aussi au quotidien les transformations qu'ils peuvent impulser et auxquelles ils peuvent participer. Je pense pas qu'il faille déconnecter les deux, mais évidemment, et peut-être que la question se pose en particulier en France aujourd'hui, quand on voit aujourd'hui que, alors que d'autres candidats portaient des réformes institutionnelles extrêmement fortes et que ce ne sont pas eux qui ont gagné et qu'on n'aura donc pas, a priori, de grand soir institutionnel tel que pouvaient le promettre certains, eh bien, il y a un enjeu plus que jamais à se dire que la démocratie ne s'arrête pas à l'échéance électorale, elle continue les 5 prochaines années et il y a un champ de créativité énorme à investir, y compris au niveau local.
Yves Saint-Omer, sur ce point, avant de se tourner vers l'Algérie dans quelques instants, sur cette opposition entre échelle locale et échelle nationale, sur ce qui a été fait dans ces mairies espagnoles, finalement, tout ça est-il vraiment différent de ce qu'on avait déjà vu dans les années 80? Je pense par exemple à Porto Alegre avec ces initiatives de budget participatif qui a été en réalité suivi par de très nombreuses villes partout dans le monde, aujourd'hui, y compris d'ailleurs en Europe, y compris ici en France, on a beaucoup de budgets participatifs. Alors au fond, quoi de nouveau dans les initiatives qui ont été prises du côté des villes espagnoles ?
Il n'y a jamais de nouveauté, enfin il y a rarement en tout cas des nouveautés absolues, mais on constate à Barcelone comme à Madrid, avec d'ailleurs des difficultés qu'il ne faut pas nier aussi, c'est une situation qui n'est pas évidente, ce sont des villes importantes dans un contexte récessif à l'échelle de l'État espagnol, mais il y a une série d'initiatives, vous en avez évoqué une bonne partie, qui marque quelque chose. Ils ont aussi des budgets participatifs qui sont effectivement une importation du Sud en Europe. On l'a aussi à Paris et dans des villes françaises de plus en plus nombreuses aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a pas un niveau qui serait le niveau du renouveau démocratique. Je pense que le renouveau démocratique doit passer nécessairement par plusieurs niveaux. Local, régional, national, international aussi, il ne faut pas l'oublier.
L'exercice du pouvoir, changer le logiciel démocratique, c'est notre sujet ce matin. Nous sommes avec Yves Saint-Omer et Elisa Lewis. On va parler dans un instant de l'Algérie.
Alash, غير كي قرب الفوت اللي تحبي تسمعي الصوت. نسمعك صوتي. والله ما نصوتي. ما نصوتيش. ما نقدرش نصوتي. شوفي حالتي. راني في لوطي. سمحي لي يما. تقلب بين البوطي. ما نصوتيش انتي كاين مرض ما تداوينيش باش تبني لنا سبيطار بنيتي لنا جامع ب 200 مليار بورطون كاع عندنا زرابه في الدار.
Mansotich, un titre de Dizé Joker, un youtubeur algérien de 26 ans, littéralement je ne sauterai pas, il y a un jeu de mots avec Mansotich qui signifie je ne voterai pas. Pourquoi c'est uniquement lors des élections que tu veux entendre ma voix? Tu veux entendre ma voix? Je ne sauterai pas, je ne voterai pas, je ne veux pas voter. Quand je suis malade, tu ne me soignes pas. Au lieu de construire un hôpital, tu construis une mosquée à 200 milliards. Tu dis que je suis ignorant. Oui, je suis ignorant car tu ne m'as pas instruit. Voilà ce que dit ce youtubeur. On va retrouver une nouvelle invitée par téléphone, Myriam Haït Aoudia. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à Sciences Po Bordeaux, chercheur au centre Émile Durkheim. Alors, je voudrais qu'on revienne peut-être sur le scrutin la semaine dernière en Algérie, qui a voté donc pour des élections législatives. Le résultat a été sans surprise. La coalition au pouvoir reste majoritaire. L'opposition est restée très divisée, n'a pas réussi à constituer ce front commun pour éventuellement une coalition de pouvoir. Et surtout, le fait marquant, très marquant de cette élection, c'est la participation. 35%. C'est une baisse par rapport à 2012 où il y avait eu 43% de participation et en réalité, quand on regarde les choses de près, on pense que c'est encore moins que ça. Premier constat, les Algériennes, les Algériens sont une minorité à avoir fait le geste de se rendre aux urnes. Est-ce qu'il s'agit seulement d'un manque d'intérêt, considérant qu'il n'existe pas d'enjeu, que d'une certaine manière ces élections sont jouées d'avance, ou est-ce qu'il faut aussi y voir, et c'est peut-être ce que laissait entendre la musique qu'on vient d'entendre, une forme d'abstentionnisme militant?
Ben, vous avez raison, en fait. Force est de constater d'abord que le pouvoir exécutif n'a pas masqué l'abstention massive, alors même que tous les observateurs ont affirmé pendant la campagne électorale que l'enjeu central était le taux de participation, qui était le fondement de la légitimité de la nouvelle Assemblée. Et le pouvoir lui-même a fait une énorme campagne pour appeler au vote. Le chiffre de la participation a étonnamment baissé jour après jour. Il était de 41 le soir du vote, et le résultat final est de 35% de participation, donc 65% d'abstention, ce qui est gigantesque. Mais à mon avis, on doit d'abord savoir qui s'est abstenu. Et nous ne disposons pas, malheureusement, d'enquête de sociologie électorale en Algérie. On n'a pas de sondage sur les caractéristiques des divers électorats et des abstentionnistes comme on peut l'avoir en France ou dans des démocraties occidentales. Mais on peut formuler, à mon avis, des hypothèses sur l'abstention qui sont fondées sur des observations, des informations partielles ainsi que sur des travaux ou des reportages de la presse. Il y a une abstention tout à fait banale et classique, dite à volontaire, les électeurs mal inscrits, absents, malades, etc. Une abstention classique liée à une dépolitisation, une absence d'attention et d'intérêt accordé aux activités politiques. Mais surtout, et c'est, vous avez raison d'insister sur ce point, il y a une troisième abstention qui devient de plus en plus forte, c'est une abstention explicitement politique et protestataire liée à l'offre électorale, au régime politique dans son ensemble. Et c'est cette dernière catégorie qui, à mon avis, a fortement augmenté lors des dernières élections législatives de la semaine dernière.
Si vous dites que c'est lié à l'offre électorale, ça veut dire que, d'une certaine manière, en Algérie, on considère que l'opposition n'est pas une réelle opposition, que le multipartisme qu'on nous offre n'est qu'une façade démocratique.
Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que, d'une certaine manière, il existe une réelle opposition qui propose des projets alternatifs, le FFS, le RCD ou une partie des partis islamistes qui ont été parfois dans la coalition présidentielle mais qui l'ont aussi quitté et fortement critiqué. Cette opposition existe. Néanmoins, la question est pourquoi ne réussit-elle pas à convaincre les électeurs qui rejettent la coalition présidentielle? Et pour ça, je pense que, les réponses sont complexes, mais il faut revenir à l'expérience fondatrice de 88-92, c'est-à-dire la première expérience démocratique algérienne, 20 ans avant le printemps arabe, qui a vu un véritable régime pluraliste s'installer entre 88 et 92, qui a été donc c'est une expérience fondatrice pour le meilleur et pour le pire, pour le meilleur parce que la liberté de la presse, y compris la liberté de caricaturer, l'apprentissage des mobilisations, du militantisme, le pluralisme partisan constituent des acquis que l'on observe encore aujourd'hui. Mais pour le pire aussi, cette expérience de 88-92, parce qu'elle s'est clôturée de façon dramatique suite à l'annulation des élections législatives remportées par le FIS, et une terrible guerre civile, vous le savez, bien commence sûr. Et elle fera 200 000 morts. Et c'est cette période qui pèse, à mon avis, aussi fortement sur les potentialités de contestation politique conventionnelle. Parce qu'il y a des mobilisations. Pardon, oui.
Vous restez avec nous, Myriam Haït Aoudia. Je voudrais faire réagir nos invités, mais j'aurais une autre question à vous poser, si vous le permettez. Et là, on peut réaliser effectivement un jeu de miroir entre l'Algérie et la France. Faut-il rappeler que les abstentionnistes et ceux qui ont voté blanc étaient le deuxième parti de France, entre guillemets, lors du second tour de la présidentielle? C'est 36,91% des électeurs, c'est-à-dire 16 millions de Français. Ce chiffre nous invite, Yves Saint-Omer et Elisa Lewis, à nous interroger sur le scrutin lui-même, sur les modalités de la représentativité, notre système représentatif est en crise aujourd'hui, Yves Saint-Omer.
Oui, alors évidemment, il y a des facteurs et des contextes qui sont très différents entre la France et l'Algérie et puis d'un pays à l'autre. Ce qui est tout de même frappant, c'est que, en faisant un peu des enquêtes de terrain au Brésil ou aux États-Unis au cours des derniers mois, j'étais frappé par la similarité des expressions de citoyens dégoûtés de ce système. Alors, on peut dire d'un côté, il y a toujours eu une remise en question des systèmes représentatifs, mais elle me semble particulièrement forte aujourd'hui. Il me semble qu'on vit tout de même la fin d'une époque. On vit la fin de l'époque où les régimes représentatifs d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord apparaissaient comme stables, relativement légitimes, assurant une protection aux citoyens, mobilisant les citoyens à travers les partis et puis le vote de façon massive. Je crois que ça, c'est derrière nous. Et on entre dans une nouvelle période dont on voit mal ce qu'elle va donner avec des tendances très contradictoires.
Elisa Lewis, sur cette crise de la représentativité, on a eu pendant la campagne un certain nombre de candidats qui ont évoqué l'idée d'un tirage au sort de nos représentants, comme ça se pratiquait dans la démocratie athénienne. Est-ce que vous pensez que c'est une idée qui pourrait s'avérer bénéfique pour nos démocraties ?
Ça me semble être une voie en tout cas à explorer, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, comme vous le disiez, l'abstention et le vote blanc, alors avec des logiques je pense qu'ils n'étaient pas tout à fait les mêmes,
absolument,
puisque l'abstention n'a finalement pas tellement augmenté par rapport aux élections précédentes.
Mais il y a en commun le refus d'une expression, quoi.
Tout justement. À fait. Alors avec, je pense, bon, c'est des hypothèses, hein, mais des motifs un petit peu différents entre les personnes qui s'abstiennent et qui sont peut-être plus dans une forme de dégoût, qui ne se sentent, qui sont frappées de désillusion vis-à-vis du système politique, qui se disent de toute manière ça ne sert à rien, la politique ne changera plus ma vie. Et puis ceux qui ont choisi le vote blanc, là, comme ou le vote nul, comme un vote cette fois contestataire et militant pour rejeter l'offre électorale qui leur était proposée. En tout cas, tout ça montre qu'aujourd'hui, les responsables politiques n'arrivent plus à faire le plein de légitimité en se présentant simplement devant les urnes une fois tous les cinq ans, et qu'il faut donc repenser les modalités de participation et de confection, de fabrication des décisions publiques et politiques. Et je pense qu'en effet, le tirage au sort sur notamment les grandes lois de transition, les questions de réformes constitutionnelles, de règles de vie des partis politiques, eh bien permet bien souvent de faire un pas de côté, d'associer les citoyens à l'élaboration de la décision. Ça a été le cas en Islande pour réviser la constitution. En ce moment, l'Irlande a fait appel à une assemblée de citoyens tirés au sort pour réviser certains articles de la constitution. Ce qu'on voit, c'est que bien souvent ça marche, ça permet d'élaborer des propositions assez complexes. Et je pense que ce grand principe qui a connu son apogée dans l'Athènes antique, eh bien, doit être remis au goût du jour aujourd'hui.
Ça marche, même si, parce que vous parliez de l'Islande, on va essayer d'y revenir, le temps file malheureusement, mais faut rappeler que cette constitution qui avait été élaborée effectivement par des citoyens qui en avaient le désir, elle n'a pas été adoptée. Donc d'une certaine manière, la proposition a été formulée, mais le changement de constitution espéré n'a pas eu lieu.
Alors là, en l'occurrence, vous avez tout à fait raison, et ce qui a marché, c'est que là où la classe politique depuis 50 ans en Islande avait promis d'élection en élection de réviser la constitution, 1000 citoyens tirés au sort, puis 25 citoyens élus, ont réussi à écrire une constitution qui, du point de vue des constitutionnalistes internationaux, est exemplaire.
C'est déjà une prouesse, vous avez raison.
C'est déjà une prouesse. Là où effectivement c'est compliqué, c'est quand la vie politique institutionnelle reprend ses droits et que le mandat de ces assemblées citoyennes n'est pas suffisamment articulé avec la vie des institutions telles qu'elles existent encore aujourd'hui.
Yves Saint-Omer, et puis je retourne vers vous, Myriam Haït Aoudia. Sur quoi repose la légitimité de ces, je mets des guillemets, simples citoyens tirés au sort? Pas sur leur expertise, pas sur précisément leur représentativité, Yves Saint-Omer. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée, ce tirage au sort?
Ce n'est pas un remède miracle, mais ça peut être une des voies relativement puissantes de rénovation des institutions. La légitimité du tirage au sort aujourd'hui, elle peut reposer sur plusieurs choses. D'une part, c'est de faire venir, prendre part, de permettre à des expériences sociales très différentes d'être entendues. Aujourd'hui, ce que l'on entend au Parlement, dans les gouvernements, c'est des gens qui viennent d'un tout petit milieu social et qui, évidemment, ont une vision extrêmement restreinte et souvent proche de leurs intérêts pour les questions. C'est deuxièmement, vous disiez, ils n'ont pas d'expertise, mais c'est un peu ce qu'on peut appeler une expertise, au moins à des niveaux locaux, régionaux, une expertise d'usage. C'est le fait de se confronter tous les jours aux difficultés de la société, à des problèmes, à des besoins non résolus, et que l'on met en avant à travers ces personnes-là. Et puis, il y a un côté aussi qu'il ne faut pas négliger, d'impartialité. Pour changer, par exemple, une loi électorale, il vaut mieux s'adresser à une assemblée de citoyens tirés au sort plutôt qu'au parti qui change les lois électorales à chaque fois en faveur de ce qui les arrange. Et donc, on a des lois qui changent, on connaît bien ça en France, de majorité en majorité.
C'est pas faux, c'est un commentaire assez juste. Myriam Haït Aoudia, peut-être un tout dernier mot avec vous, si vous le permettez, sur le cas algérien. Parce que l'une des nouveautés aussi de cette élection algérienne dont on parlait, c'est la vitalité des réseaux sociaux qui, pendant la campagne, ont beaucoup commenté, justement, dénonçant l'effet de corruption, dénonçant le manque de politique claire, stigmatisant un régime incapable d'assumer un minimum de services publics. C'est exactement le sens de cette chanson qu'on entendait tout à l'heure. D'où viendra le renouveau démocratique en Algérie? Est-ce qu'il sera précisément le fruit d'une mobilisation civile et populaire, et notamment via ces réseaux sociaux, ou est-ce qu'il viendra par l'effondrement, tout simplement, du système politique actuel?
Ce qui est intéressant, en effet, c'est que le rejet de la classe politique ne s'est jamais autant manifesté en Algérie que lors des dernières élections, mais ce rejet ne se manifeste pas, comme ailleurs, par l'émergence de nouvelles personnalités politiques qui concourent aux élections, mais par des appels au boycott par des citoyens ordinaires via les réseaux sociaux. Et c'est effectivement un phénomène tout à fait nouveau. Et des youtubeurs donc ont posté de nombreuses vidéos subversives, drôles, parfois graves et très émouvantes, appelant explicitement au boycott des élections. Et comme la fameuse main de sauté dont vous avez diffusé un extrait. Et il y montre une série de scénettes, il dessine, vous l'avez dit, les contours des problèmes que rencontrent les Algériens, les hôpitaux défaillants, le bas niveau de l'école, etc. Elle a eu 6 millions de vues. Mais il faut bien comprendre que ça ne signifie pas seulement « je ne sauterai pas », mais c'est en fait, Shemsou a été très malin puisqu'il a détourné le slogan officiel du pouvoir qui a fait une énorme campagne qui disait « faire entendre ta voix ». Smart Sotek, donc « saute », c'est la voix. Donc c'est je ne donne pas ma voix et je ne fais pas entendre ma voix par l'élection. Et cette vidéo a été très largement relayée par la presse écrite et radio. Et un ministre a même évoqué Shemsou, l'auteur de cette vidéo, qui était connu bien avant cette vidéo d'ailleurs, parce qu'il a une chaîne YouTube où il diffuse régulièrement des vidéos extrêmement subversives. Et il a dit, ce ministre, il a dit à propos de Mansotech. Le pouvoir a dit c'est trop bien fait pour être algérien. C'est assez pathétique car encore une fois il réitère la rhétorique du complot ourdi de l'étranger au lieu de prendre au sérieux le succès gigantesque qu'ont ces vidéos aujourd'hui en Algérie. Mais plus grave encore, c'est une insinuation que les jeunes Algériens ou l'Algérie dans son ensemble sont incapables de faire des choses d'une telle qualité.
Merci beaucoup Myriam Haït Aoudia d'avoir accepté de nous parler ce matin. Je rappellerai que vous êtes notamment l'auteur de l'expérience démocratique en Algérie 1988-1992. Un grand merci d'avoir été avec nous. Je voudrais qu'on prenne la direction de la Finlande désormais pour illustrer un type d'initiative citoyenne. Depuis une réforme institutionnelle de 2012, la constitution finlandaise laisse la possibilité à ses citoyens de proposer des lois, et à travers ce dispositif donc chaque citoyen peut proposer un texte, lequel est co-rédigé par des bénévoles d'Open Ministry pour lui donner une forme législative, un projet qui est directement présenté devant le Parlement à condition d'obtenir au moins 50 000 signatures. On va retrouver justement Jonas Pekkanen, le fondateur, le coordinateur d'Open Ministry. Il revient sur le contexte dans lequel a émergé ce dispositif, ce qu'il a permis, et puis la réaction aussi des partis lorsque ces initiatives ont été soumises au Parlement. Il est au micro d'Anne-Sophie Pierry.
Yeah, so in 2012, when the Citizens Initiative and also the constitutional...
En 2012, quand a été adopté le principe d'initiative citoyenne et surtout l'amendement constitutionnel qui l'a rendu possible, il y a eu relativement peu de débats politiques entre partis. Il y avait un quasi-consensus sur le fait qu'il s'agissait plutôt d'une bonne réforme. Mais c'est plus tard, en 2012, au moment des premières campagnes, que la réaction politique s'est fait sentir, notamment au sein des partis conservateurs, où l'on trouvait que ce n'était plus une si bonne idée. Donc ça a vraiment commencé avec le lancement des premières initiatives par la société civile.
One of the big early campaigns was this same-sex marriages.
Une des premières grosses campagnes a été celle pour le mariage des personnes de même sexe. Jusqu'à présent, c'est la seule initiative citoyenne qui a véritablement abouti à un changement de législation. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ce succès. La première est que les députés venaient d'échouer à faire adopter un projet similaire au Parlement. Et l'initiative citoyenne a permis l'indignation publique de s'exprimer en ouvrant d'autres voies pour pousser ce projet.
So far, there's more than 500 initiatives that people have made. About 30 or so have reached.
Jusqu'à présent, on compte plus de 500 initiatives et environ une trentaine qui ont atteint le seuil des 50 000 signatures. Certaines ont eu une influence indirecte, mais la seule qui a véritablement été promulguée comme loi est celle concernant le mariage des personnes de même sexe. Nous sommes également présents dans le débat public afin de promouvoir une meilleure prise en compte des initiatives citoyennes par le Parlement, mais aussi, plus généralement, pour améliorer la transparence et la responsabilité des administrations publiques.
Et comment faites-vous pour que des citoyens qui ne s'intéressent pas nécessairement à la politique décident de s'impliquer dans ce genre d'initiative ?
Sur ce point, l'initiative citoyenne est un instrument qui s'adapte à des niveaux très différents de participation. On peut tout autant s'impliquer activement dans la conception de nouvelles initiatives et les campagnes que soutenir simplement un projet avec lequel on est en accord en lui donnant sa signature. En fait, l'initiative citoyenne n'est que l'un des exemples, en partie couronné de succès, de ces nouveaux outils qui se développent pour favoriser la démocratie. démocratie citoyenne entre deux élections, afin que la participation ne se limite plus seulement au vote, mais permette aux citoyens d'affecter le processus de décision et le débat public à tout moment.
Voilà, donc Jonas Pekkanen depuis Helsinki, fondateur d'Open Ministry, au micro d'Anne-Sophie Pierry. Elisa Lewis, vous connaissez bien sûr cette initiative, vous en parlez dans votre ouvrage « Le coup d'État citoyen ». Et ce qui est intéressant dans ce cas, que j'ai pas mentionné en lançant cette petite intervention, c'est que il a fallu attendre précisément l'action de cette ONG militante pour la démocratie, Open Ministry, pour avoir justement cette plateforme citoyenne, pour que les citoyens précisément puissent soumettre leurs suggestions au Parlement. Ce n'était pas prévu par le gouvernement.
Oui, tout à fait, c'est ce qui est assez, assez paradoxal, puisque on a ce nouveau droit constitutionnel qui a émergé, mais aucun moyen pour l'accompagner et permettre sa mise en place réelle n'avait été prévu. Donc ça a été tout le travail qu'a fait cette ONG pour faire de ce droit d'initiative citoyenne un vrai tremplin pour la démocratie, en permettant d'une part aux citoyens du coup de participer à l'élaboration large de textes qu'ils souhaitaient soumettre au Parlement, mais aussi de faire ce travail de traducteur législatif pour que les propositions soient formulées dans un langage qui soit recevable par l'institution, et puis enfin d'organiser la campagne, notamment de la collecte des signatures, pour réussir à obtenir ce seuil des 50 000 signatures. Donc c'est intéressant de voir comment, d'une part, il ne suffit pas d'initiative de la société civile pour véritablement changer la démocratie et qu'il faut réussir à trouver des traductions institutionnelles, mais qu'inversement, ce n'est pas simplement des droits institutionnels qui permettent véritablement de bouleverser la démocratie et que les deux marchent ensemble.
Marchent ensemble. Yves Saint-Omer, question extrêmement générale. Que peut finalement le numérique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, Internet pour la démocratie ? Est-ce qu'il peut se contenter finalement, est-ce qu'il doit se contenter de proposer de nouveaux outils permettant d'améliorer le système actuel, le système qu'on a ? Ou est-ce qu'il faut, est-ce qu'il peut, est-ce qu'il doit vraiment nous forcer à repenser totalement la nature même de nos démocraties et de leurs institutions ?
Alors, je crois qu'il y a souvent un fétichisme technologique qui dit, voilà, il y a une nouvelle technologie et ça va tout bouleverser. C'est pas vrai, ça se passe pas comme ça. Il y a des logiques sociales et politiques très diverses qui peuvent être supportées par n'importe quelle technologie. Il n'en reste pas moins que la socialisation, aujourd'hui, de tout un chacun, en particulier des jeunes générations, a changé avec une mise en réseau, entre guillemets, qui est tout de même différente de celle du passé, avec les réseaux sociaux, on le voit dans les mobilisations, on le voit dans la vie quotidienne, et qu'une politique qui ne s'adapterait pas à ça aurait des problèmes, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. En même temps, on voit aussi, en particulier pour ces questions de démocratie électronique, comment, jusqu'à aujourd'hui, les outils dont nous disposons sont relativement primaires. Comment, à partir de dizaines, centaines, milliers, centaines de milliers de contributions, on peut monter, en généralité, faire des synthèses qui ne soient pas arbitraires, qui ne soient pas faites par ceux qui sont au centre conduitant. Ce n'est pas évident et il faudrait qu'on invente des logiciels pour cela, à la fois techniques et politiques, pour faire ce que fait Google ou Facebook, pour faire ressortir les choses les plus importantes.
Alors justement, il y a une forme de gouvernance qui se propose peut-être de penser cette évolution. C'est ce qu'on appelle la démocratie liquide, qui est donc cette forme de gouvernance où les décisions sont prises par voie référendaire et où le pouvoir de vote est confié à un délégué plutôt qu'à un représentant, Elisa Lewis. Certains y voient d'une certaine manière la synthèse entre la démocratie directe et la démocratie représentative. Et c'est bien sûr une innovation qui est permise par l'outil numérique. C'est ça le futur de nos démocraties, Elisa Lewis ? C'est la démocratie liquide.
En tout cas, c'est une voie que proposent d'explorer certains, en se disant que la démocratie aujourd'hui se meurt de ce pseudo rendez-vous démocratique qu'est l'élection, où sont hystérisées les positions et où la seule possibilité qui est proposée aux électeurs et aux citoyens, qui ne sont plus du coup que de simples électeurs, c'est de mettre dans une urne un bulletin avec un nom, souvent qui n'a pas été choisi, qui porte un programme auquel les gens n'ont pas contribué. Donc la proposition de la démocratie liquide, c'est de dire que d'une part, la démocratie représentative essouffle le fonctionnement de nos démocraties, mais que d'autre part, une forme de démocratie directe permanente ne serait pas réaliste, puisque d'une part, tout le monde n'a pas envie de contribuer sur tous les sujets, et puis que ce serait aussi une forme de démocratie épuisante où on serait appelé à contribuer sans cesse.
Épuisante et puis pas parfaite, parce que vous précisez dans votre livre que c'est aussi un système qui a ses failles, notamment par exemple s'agissant des contre-pouvoirs qui sont quand même bien utiles dans nos démocraties.
tout à fait. Donc l'idée de la démocratie liquide ou en résumé, le projet de la démocratie liquide, c'est de permettre aux électeurs soit de voter directement pour les sujets qui les intéressent, sur lesquels ils se sentent compétents et légitimes, soit de déléguer leur pouvoir de décision à des proxys, à des représentants dispersés dans la société. L'idée de la démocratie liquide étant de faire émerger dans la société civile de nouveaux leaderships, de nouvelles compétences et ainsi de disséminer dans la société les pouvoirs de décision et de distribuer plus largement les contre-pouvoirs.
Yves Saint-Omer, vous y croyez, vous, à cette démocratie liquide, c'est notre avenir ?
Je ne sais pas si c'est notre avenir. C'est l'une des voies par lesquelles on peut rénover le système politique. Encore faut-il, parce que ce n'était pas le sujet de l'émotion, mais il faut tout de même le rappeler toujours, que les réformes internes au système politique sont à la fois des fins et des instruments, mais que si on ne fait pas face à des défis sociétaux, au fait que le capitalisme financier globalisé déstabilise les sociétés, le défi écologique, si ces défis-là ne sont pas affrontés, on peut faire tout ce qu'on veut au niveau politique, ça ne suffira pas.
Merci beaucoup à vous, Yves Saint-Omer et Elisa Lewis.
Taksin katolla vilkku, yön ainoa valopilkku, tuto topat mutteri veneen, odottaa minä menen.
Merci beaucoup à tous les deux. Je rappellerai, Elisa Lewis, que vous êtes co-auteur avec Romain Slitine du coup d'État citoyen, ces initiatives qui réinventent la démocratie qui étaient parues à la découverte. Un grand merci également à vous, Yves Saint-Omer. Et puis je remercie à nouveau et Younas Pelkanen et Myriam Haït Aoudia qui était avec nous tout à l'heure par téléphone. Et d'ailleurs, je précise, parce qu'elle tenait à le dire, on n'a malheureusement pas eu le temps de le préciser, mais que la vidéo dont nous parlions, dont on a tout à l'heure diffusé un extrait, Manzotic, qu'on mettra d'ailleurs tiens, sur le site de Culture Monde, n'avait pas été censuré en Algérie, ce qui n'est pas rien, ce qui veut dire aussi qu'il y a quand même une certaine liberté d'expression, probablement qu'une vidéo comme celle-ci aurait été censurée du côté de la Turquie, par exemple. Ça n'a pas été le cas en Algérie. Voilà, c'est dit, je sais que Myriam Haït Aoudia tenait à le préciser, c'est donc chose faite. Heures passées de 53 minutes, l'heure pour nous de retrouver le monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors certes, on ne connaît pas encore le résultat des élections allemandes, puisqu'elles auront lieu cet automne, au mois de septembre, mais que peut-on dire déjà de l'état des relations franco-allemandes après la victoire de l'europhile Emmanuel Macron en présidentielle française ?
Les Allemands ont un intérêt vital à la réussite de Macron. C'est ce qu'écrit noir sur blanc l'ancien ministre vert des Affaires étrangères, Joschka Fischer. L'avenir de l'UE, et en particulier celui de l'Allemagne, écrit-il, dépend d'une présidence Macron réussie. Elle permettra d'extraire la France de son malaise économique, qui n'a que trop duré, ainsi que de résoudre la crise identitaire qui paralyse ce pays. Fin de citation. Mettre fin aux divisions sociales qui affaiblissent la France requiert le démarrage d'une économie en panne de croissance, car la mission Macron, c'est de mettre fin au sous-emploi. Après que la France ait essayé sans succès les mises en retraite anticipées avec la droite, le partage du temps de travail avec la gauche, les couches superposées d'emplois aidés ajoutées successivement par la droite et par la gauche. Mais sur l'efficacité des mesures préconisées par notre nouveau président, les avis divergent. Si beaucoup voient la France prendre avec retard la voie des réformes du marché du travail qui ont bien réussi à l'Europe du Nord, d'autres doutent de leur efficacité. L'économiste de gauche, Danny Roderick, juge que le programme de Macron demeure malgré tout dans la ligne d'un néolibéralisme, je cite, qui se démarque peu des politiques d'austérité pratiquées jusqu'alors. Ramener le taux de l'impôt sur les sociétés près de la moyenne européenne, supprimer 120 000 postes de fonctionnaires afin de maintenir le déficit sous la bande des 3% du PIB, ce n'est guère révolutionnaire, dit-il. Adopter la flexi-sécurité à la Scandinave est plutôt une bonne chose, mais cela ne suffira pas, selon Roderick, à faire revenir le taux de chômage à un niveau supportable. D'autant que le plan de relance annoncé de 50 milliards dans les infrastructures et la formation des chômeurs demeure à ses yeux insuffisant puisque ça représente à peine 2% du PIB. Non, je cite Danny Roderick, le succès de la présidence Macron dépendra dans une large mesure de la coopération européenne et Macron l'a compris, qui veut convaincre les Allemands de la nécessité d'une politique plus généreuse de transfert entre pays riches et excédentaires, comme l'Allemagne, et pays en souffrance. Roderick a l'air de penser que la direction du SPD y est disposée, mais que ce n'est pas forcément la ligne que défendra Angela Merkel durant la campagne électorale.
Et alors, que devrait faire Emmanuel Macron pour se montrer convaincant, Brice?
On relèvera avec amusement que Joschka Fischer, toujours lui, ancien ministre allemand de Gerhard Schröder, conseille au président de la République de se montrer moins conciliant envers Berlin que l'ont été ses prédécesseurs Sarkozy et Hollande. Quel que soit le résultat des élections allemandes de septembre, explique-t-il, la nouvelle équipe dirigeante saura se montrer plus solidaire et plus accommodante envers les besoins de la France en matière d'investissement, à condition d'être sollicité. Car à l'occasion de nos élections présidentielles, les Allemands ont pris conscience du risque réel de voir notre pays, en quittant l'euro, entraîner la destruction de tout l'édifice européen construit au cours des 60 dernières années. Décidément, Emmanuel Macron à la baraka. Alors, quelle forme pourrait prendre cette solidarité allemande? Klaus Schwab, le fondateur du Forum économique mondial, lève en partie le voile. « Nous autres Allemands, écrit-il, devons reconnaître que le fossé qui sépare les économies du Nord et celles du Sud de l'Europe s'est encore élargi à la suite de la crise de 2008. » D'où l'idée d'une Europe à plusieurs vitesses qui fait un grand retour et qui apparaît comme une solution à ses yeux. Elle ne l'est pas. Car en réalité, chacune de nos nations est un cas à part. Il vaudrait mieux parler d'une Europe aux besoins différents qu'une Europe à vitesse différente. Alors, ce que devra faire le prochain gouvernement allemand, s'il veut se montrer responsable, c'est prendre l'initiative, je cite toujours Schwab, d'un mouvement d'allègement des dettes publiques à l'échelle de toute l'Europe. Dans la foulée, le fondateur du Forum économique mondial reconnaît que l'excédent commercial allemand n'est pas soutenable et que Berlin ne peut pas continuer non plus à attirer les jeunes talents des pays d'Europe du Sud, car la fuite des cerveaux commence à menacer certains d'entre eux, comme on s'en souvient, celle des médecins et infirmières des pays d'Europe centrale vers la Grande-Bretagne au cours des années récentes. Par bonheur, notre incapacité congénitale à apprendre les langues étrangères nous a évité jusqu'ici un brain drain nach Berlin.
Alors, autre question, Brice. L'Union européenne est-elle responsable du tremblement de terre qui a empêché les partis de gouvernement d'être présents au second tour toutes des récentes présidentielles, Brice?
Non, répond un professeur de sciences politiques de Cambridge, qui d'après son nom, Hugo Drochon, doit être français quand on parle du brain drain. C'est la classe politique française elle-même, je cite, « l'une des plus dorlotées et les plus refermées sur elle-même parmi les élites occidentales qui paye le prix de ses erreurs ». Et Drochon, de dresser un parallèle entre les deux filières d'excellence progressivement mises en place en France et en Grande-Bretagne, l'ENA, et PPE pour Philosophy, Politics and Economics, le diplôme le plus coté d'Oxford. Dans les deux cas, il s'agissait de former une classe d'administrateurs publics de très haut niveau, mais cela a abouti à la création d'une élite technocratique, d'un grand conformisme intellectuel qui a perdu le contact avec la population et qui s'est emparé de la direction des partis politiques.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut bien sûr retrouver sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.